sur le test du speaker et en fait ça fait un bruit de trompette. Voilà.
Serial Causeur. Drôle de nom pour un Pokémon.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur. La grève est finie pour les scénaristes et pour les acteurs-actrices. Les tournages vont pouvoir reprendre, mais on vous a quand même trouvé une palanquée de séries cet automne. Avec moi, la fine équipe des spécialistes, Stéphane de The Spectator.
Ouais, bonjour.
Aki de Beta Série.
Hello.
Et Maxime du journal de Mickey.
Ah, tu m'apprends un truc.
Bah,
c'est mes blagues.
Oui. Oui. Ou ta queue de souris.
Oh, c'est un texte sévère.
Nous ne sommes plus devant un public. Voilà, oh, vous l'avez remarqué. Triste. Si vous avez suivi notre précédente émission, vous avez pu constater que nous étions face au public de podcast fin octobre. À froid, les petits causeurs, comment vous avez vécu l'expérience du live?
C'était vraiment top.
C'était bien.
Hein. J'aime bien être applaudi parce que je suis drôle. Ou parce que les gens se moquent de moi, comme tu as pu le dire.
Oui, c'est surtout ça. Ouais. Non, mais c'était cool de se voir en live et de parler une 1h20 de série en plus. Et surtout, merci pour les retours après l'émission parce que c'était assez soudain, il y en a eu beaucoup.
Ah et bon ça, bah, t'aurais pu nous les partager.
Bah, t'étais pas là.
Non, mais pas.
Ah, tu veux dire du public, toi, j'avais pas compris. Ok. Ouais, non, non, c'est vrai que c'était cool de se voir en se parlant parce que c'est vrai qu'on se voit pas. Après. Objectivement, je vous ai trouvé meilleur que d'habitude, mais je me suis trouvé moins.
Ah, oh, mais vrai. Non, t'étais voilà. Très bien.
C'est peut-être pour
si,
ça.
Si, c'est vrai. Vraiment, voilà.
Tu veux rentrer en psychanalyse. Parler, si tu veux.
T'inquiète.
Non, mais moi, je prends un compliment d'acquis. Franchement, ça fait plaisir, quoi.
Oui, c'est vrai.
Mais non, mais tous les compliments ont fait plaisir. C'est vrai que c'était.
Oui, mais celui-ci, il est multiplié par deux.
On a appris beaucoup de choses sur Jaurès.
Oh, mais oui.
Oui, c'est vrai. Oh mon Dieu.
Ah oui, il doit y avoir un podcast à rattraper, hein, si tu veux.
Oui, parce que j'ai pas tout compris, donc il faudra qu'on. Peut-être qu'on réinvite le monsieur. Alors, on a regardé quelques séries ce mois-ci. On commence par celle qui a fait un peu bouger la série sphère. C'est. Bah, pas du tout, en fait. J'ai sauté une ligne, en fait, j'ai changé. Non, c'est Tout va bien sur Disney+. Stéphane, c'est avec Virginie Efira.
Oui.
Et d'autres alors, gens.
Et Sarah Giraudot.
C'est bien qu'il y a bien Jennifer. Ouais, y a plein
Sarah
de gens.
Giraudot, Bernard Lecoq et Nicole Garcia, entre autres.
Bah tout ouais, mais fait. Ils invitent tous Virginie et pas les autres.
Ouais.
Bah ouais.
C'est dommage, ils n'ont pas invité la scénariste ou le réalisateur, producteur. C'est con, hein. Bon, enfin, bon, c'est pas grave.
Qui est donc
Éric Rochant donc et Camille de Castelnau.
Camille de Castelnau,
voilà.
Ouais.
On peut pas aller. Voilà.
Alors, qu'est-ce que ça raconte?
Qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est la chronique d'une famille qui est embêtée parce qu'il y a la petite fille.
En crise, tu peux
non,
le dire.
Au début, ouais. Ils sont embêtés parce que la petite, elle a un cancer, tu vois, une leucémie. Sauf que, ben, en fait, ça va se compliquer et la famille va partir en live. Voilà. Tout simplement.
Mais tout doucement.
Tout doucement,
oui. Enfin, ça, mais en même temps, comme on rentre dans le... En fait, on n'assiste pas au diagnostic. Donc, ils sont déjà en train de faire des... Enfin, non, ils n'ont pas fait les chimios parce que ça n'allait pas marcher.
Non, mais
donc,
on parle de
faire
greffe,
une greffe
déjà. Oui,
ouais, des greffes. Donc, en fait, on a pas le début de comment ça s'est passé. Donc, ça, c'était très bien parce que le diagnostic, ça aurait pu être très larmoyant, etc. En fait, on rentre dans le vif du sujet et la série, elle nous prend comme ça, vraiment dans l'épreuve... vraiment violente quand même, parce que ça l'est jusqu'au bout. Quoi.
C'est drôle, c'est triste.
Oui, parfois
c'est drôle,
drôle franchement.
Même,
c'est...
Certains moments. C'est triste.
Oui, c'est triste.
C'est
pleuré.
Très honnête. Franchement, sur le parcours que c'est et les difficultés que les gens rencontrent. Je crois que je l'ai déjà dit par ici, mais moi, ça m'a beaucoup parlé, parce que bon, voilà, ça m'a rappelé quand même beaucoup de choses. Et je vois qu'en presque 18 ans... j'aurais préféré que vivre cette épreuve-là aujourd'hui. Au moins, t'es plus encadré, t'as des psys qui t'aident. Enfin, on te montre beaucoup de choses. Là, il y a des nouvelles lois qui sont passées pour aider les parents dont les enfants sont malades et avec le partage de jours de repos, etc. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et franchement, c'est vraiment une chronique qui détaille tous les problèmes, toutes les choses, sans être vraiment triste. Voilà, mais c'est franchement très bien fait, quoi.
Mais qu'est-ce que ça fait sur Disney+
Bah c'est une série familiale bah, en
c'est
fait.
C'est les seuls qui avaient de la thune.
Et c'est ça que j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça pas mal aussi. Il y a vraiment un épisode où tu te dis que toutes les générations sont confrontées à la maladie, voire au deuil même. Ouais, c'est vraiment une discussion que, enfin, une série que tout le monde peut regarder.
Qui est presque nécessaire aussi, hein, parce que ça met des mots sur des choses que tu ressens, mais dont tu as mal. À mettre le doigt sur ce que c'est vraiment. Et pour le coup, a posteriori, hein, ça, moi je la trouve très nécessaire. Voilà, ça serait presque dommage que, ou même obligatoire de la regarder parce qu'elle t'aide beaucoup personnellement à aborder certains sujets.
Faut pas la prendre par contre comme les bracelets rouges.
Ah non.
On tourne autour de l'hôpital parce que on est dans la situation où la petite est malade, mais on s'intéresse beaucoup plus aux membres de la famille.
Tout à fait.
Et à de quelle manière cette épreuve les impacte. Ouais. Mais aussi on les regarde en tant que personnages. Et moi c'est ça que j'adore dans la série, au-delà de tout ce que Stéphane a dit, où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que par exemple le personnage de Virginie Fira n'est pas quelqu'un d'aimable. Elle fait énormément d'erreurs. Elle fait des erreurs conscientes.
Tout le monde, en fait. Hein. Ouais. Tout le monde. Même celui de Sarah Giraudeau aussi, honnêtement, on ne peut pas lui décerner le mug de la meilleure mère du monde, quoi.
Ah non,
voilà.
C'est sûr.
De l'année.
Mais justement, c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est ça. C'est ce regard super honnête sur, dans une situation comme ça, on peut vriller. Il n'y a pas le... Il n'y a pas forcément le schéma de la famille soudée où on va tous se remonter le moral, machin.
Tout à fait.
C'est vraiment, tout le monde vrille, tout le monde essaye de tenir, parce que de toute façon, t'es obligé, hein, tu peux pas te casser, même si y a des personnages qui aimeraient bien. Et c'est vraiment ce truc-là où tu t'explores tous ces personnages que j'ai trouvé vraiment super fort. J'en suis au sixième.
T'arrives au bon moment, là. Enfin, au bon moment, oui.
J'ai envie de les voir plus tard, quoi. Enfin, j'ai envie de continuer à les voir. C'est ça que j'aime.
Alors moi, il y a un truc qui, qui vient de dire que tu veux pas décerner le prix de la meilleure mère au personnage de Sarah Giraudeau. Je trouve ça très cruel parce que c'est une très bonne mère, mais là où elle pêche, c'est parce qu'elle essaye d'être femme en même temps qu'elle essaye d'être mère. Et
alors moi, je vois pas les choses comme ça.
Ouais, ah bon.
Alors je comprends tout ce que tu veux dire sur le être femme. Oui, je l'accorde, mais pour moi, elle est dans un déni complet et c'est pas donc en fait c'est pas elle essaie d'équilibrer les deux, c'est vraiment il y en a un qu'elle a complètement mis sur mute, quoi. Et donc du coup c'est sa manière de réagir et ça c'est ça aussi qui est bien écrit, hein, évidemment, mais du coup je trouve qu'elle est un peu égoïste sur ça.
L'épisode où elles partent en vacances avec
Magique.
Virginie Fira. Non, mais là où moi je rejoins Aki, c'est que je suis d'accord avec toi, Stéphane, elle essaie de trouver un équilibre, de se retrouver elle, de pas penser qu'à sa fille, mais en fait elle le fait d'une manière où elle essaie d'échapper à la situation sans vraiment l'avoir pris en face.
Ah oui, non, mais c'est vrai que d'avoir réservé le voyage alors qu'elle savait pas forcément si la fille allait aller mieux, etc. Voilà, mais non, mais c'est dur. Et puis après, bon, c'est une histoire d'argent, de pas perdre de la. Elles sont parties parce qu'elles aussi, elles avaient besoin de prendre l'air, de se reposer.
Bien sûr, c'est ça aussi
qui est très bien dans la série, c'est que on ne les juge pas, on nous les montre telles qu'elles sont, mais on ne juge jamais les personnages. Ce qu'elle fait, le fait de faire les vacances, ou bon, on va spoiler un petit peu, même si c'est pas un gros spoil, elle a une liaison extra-conjugale.
Ah bah non, ça arrive très vite, hein.
Voilà.
Oh non, au début, on suppose, enfin, on sait pas si elle va vraiment sauter le pas, quoi.
Oui, bon.
Moi, j'ai beaucoup apprécié le rôle du père, enfin, de Bernard Lecoq, du patriarche.
Ah bah, on
la
voit
famille.
Pas.
Mais je l'ai trouvé vachement touchant, dans son questionnement, justement, son rapport, au donneur, enfin, je sais pas pourquoi. Les rares moments où on le voit, j'ai trouvé que c'était vraiment lui la voix de la raison, et je l'ai trouvé hyper touchant, voilà.
Ouais. Non, mais vraiment. Ça, je suis d'accord, mais je trouve qu'on
aurait dû le voir plus. Oui,
je
suis d'accord, je trouve qu'il manque.
Parce que bon, Nicole Garcia, le personnage de la grand-mère.
Ouais, un peu cliché au début, mais tête à claque, mais bon, c'est.
Mais elle méritait pas, alors d'ailleurs, son mari lui reproche de prendre toute la place, et en effet, elle a pris toute la place, et lui s'est retrouvé, mis de côté.
En périphérie, quoi.
Son subplot, d'ailleurs, à Nicole Garcia, je suis à moitié convaincue.
C'était pour être...
Non, moi, j'aime bien la manière dont ils approchent le fait qu'elle, elle veut pas reconnaître cette culpabilité-là, parce que c'est pas la relation qu'elle a pensé avoir avec lui, avec cet éditeur qui a accusé de violence sexuelle, enfin, en tout cas, d'agression. Ouais. Et j'aime bien la dynamique que ça donne à son personnage qui, en fait, se rend compte qu'elle a... elle a mis toute une partie de sa vie dans cette relation et dans son métier, et qu'elle est en train de partir en fumée, en fait. Enfin, qu'on peut vite la remplacer. Ah, donc, sur ce côté-là, c'est assez intéressant. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit pas assez, elle, la manière dont la maladie de sa petite fille l'impacte. C'est celle où on a l'impression qu'elle en est le plus détachée. Elle vient tous les 15 jours avec un cadeau.
Et en même temps, elle peut pas. C'est ça aussi, c'est dur, parce que, à un moment donné, comme la petite, elle
est... Les visites sont limitées.
Oui, voilà, il y a le père, la mère et la tante, et après les autres, ils sont là, même le frère,
il a pas envie d'être là, quoi.
Oui, parce que
ça l'arrange bien, au contraire.
Ouais, mais regarde, c'est là où la série, elle est intelligente, c'est que elles ont préféré donner l'accès au frère, qui peut la voir, et pas à la grand-mère, qui habite juste à côté. Ça dit aussi des choses de la famille, des personnages.
Oui, ça c'est sûr.
Mais franchement, je l'ai trouvé très moderne. Enfin, par rapport au paysage télévisuel français, je trouve que Camille de Castelnau là a vraiment fait du bon boulot, quoi. Vraiment. Ouais. Elle cite comme référence Gilmore Girls, Six Feet Under, etc. Mais tu sens qu'en fait, ça fait très authentique. Ça fait pas soap, voilà, comme les Bracelets Rouges, comme tu disais, Maxime. Et je m'attendais pas à apprécier autant une comédie dramatique française, et pourtant ça a été le cas.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la série questionne juste le fait d'être mère entre ces deux sœurs, où il y en a une qui l'aime et qui risque de ne plus l'être, et Virginie Fira qui en fait ne veut pas l'être ou l'est que par substitution. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super.
La belle-mère et la petite fille, enfin la fille.
De l'ex-femme.
Ouais, de l'ex-femme. Oui. C'est une catastrophe. Elle est horrible. Mais enfin, c'est très drôle. Enfin, bon, c'est tout. Enfin,
et puis il y a un lapin dans l'histoire. Voilà, oui, c'est tout ce qu'il fallait dire. Il y a un lapin dans l'histoire et voilà.
Est-ce qu'on retrouve, parce que donc Camille de Castelnau et donc les réalisateurs et Groschamp viennent aussi du Bureau des légendes, est-ce qu'on retrouve des thématiques ou des choses comme ça?
Ah ben,
des liens.
Ça, je pourrais pas te dire.
Moi, je trouve que ça a rien à voir, c'est ça qui est bizarre. Enfin, je dirais bien sûr que les personnages sont aussi, comme on aime bien dire en ce moment, caractérisés, mais sinon, c'est sûr que niveau de thématique, on retrouve pas la même chose. C'est à deux mondes complètement différents. Et d'ailleurs, quand j'ai interviewé Camille de Castelnau et Sarah Giraudeau, elle disait que le casting de Sarah Giraudeau a pas été évident parce que c'était difficile de s'écarter de son personnage, voilà, du Bureau des légendes et de l'imaginer dans ce rôle-là, même si elle est toujours un peu perchée, enfin... On le voit bien, mais bon, et je l'accorde, hein, parce que franchement, c'est.
Elle a la tête de l'emploi de la mère perdue.
Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui.
Du coup, mini-série.
Oui.
Alors, malheureusement, oui, je te dirais, mais j'aimerais bien passer, comme disait Maxime, un peu plus de temps avec la famille Vasseur, quoi.
Pour moi, c'est vraiment une série qui aurait pu avoir une saison 2, une saison 3, une saison 4, sans forcément être très très longue. Mais revenir de juste les voir, parce qu'il n'y a pas que ça qu'ils vont avoir comme épreuve dans la vie.
Six Feet Under française.
Presque.
Après,
dans le format, dans ce que ça essaye de dire, en tout cas.
Non, mais parce qu'après, il y a des traumas aussi. Enfin, ça a laissé des marques, hein, ce qu'ils ont vécu. Donc, franchement, une saison 2, ça aurait pas été complètement à côté de la plaque de l'affaire.
Je sais pas si pour signer ce genre de nom, tu peux t'engager sur plusieurs saisons, j'en sais rien, tu vois.
Non, ça va, 8 épisodes.
Non, mais c'est vrai que du coup, c'est quand même vachement plus compliqué de faire des saisons régulières en ayant un casting comme ça qui tourne. Enfin, Virginie Efira, pour l'avoir sur 4-5 mois, je pense que c'est compliqué.
Ouais,
hein.
Voilà, c'est ça. C'est clair.
Donc, vous recommandez
clairement. Tout
bien. Oui.
Et sur Disney Plus.
Un truc, j'en ai marre des séries Disney où ils ont leur filtre jaune. Enfin, en étalonnage, c'est pas possible. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Mais tout, même Irrésistible, c'était pareil, ça m'a saoulé. Juste l'image, pour moi, ça m'insupporte. C'est censé être genre pseudo-moderne ou je sais pas quoi.
Tu trouves que c'était
jaune? Je trouve juste ça plat.
C'est pas ta télé?
Non, c'est pas ma télé.
Pas, mais bon, après, à chaque fois que tu dis ça, j'ai l'impression de ne pas avoir regardé les mêmes choses que toi, quoi.
Peut-être que c'est de la déformation professionnelle, mais franchement, parfois, ça vraiment, je suis en mode, oh là là, voilà, encore un étalon chelou, bref.
Et juste moi aussi, je rajoute un truc, c'est sur la réalisation. Je trouve que Eric Rochand met une.
Il a fait que les deux premiers. Hein,
oui, mais il fait vraiment quelque chose de très bien sur les deux premiers. Mais après les autres, ils ont été obligés de reprendre. Hein, mais franchement, je trouve qu'il y a quelque chose de très élégant. C'est vraiment très joli. Et je maintiens la scène d'ouverture de la série est complètement ratée. Et elle n'a strictement rien à foutre là-dedans. Voilà.
Est-ce qu'on a une résolution de cette scène?
Non. Donc elle est complètement. Non, elle est à côté de ses pompes. Je ne la comprends
pas. Non, mais en fait, vu la thérapie entre guillemets, Enfin, ouais, je sais pas.
Non, non. Il y a l'histoire du clown, la petite là qui regarde des clowns et tout ça machin. Non, mais je ne la comprends pas. Elle n'a arrivé à ce moment donné là, ouvrir la série là-dessus, c'est juste gratuit et surtout que c'est pas expliqué par derrière. Donc,
c'est vrai
je
que
ne
quand on
pas.
Commence comme ça, tu t'attends à une série beaucoup plus sombre. C'est vrai. Oui.
La musique, Stéphane, t'as marqué
oui.
ou pas? Parce que je vois que c'est un DJ qui fait
oui, elle a été là aussi, encore une fois, très élégante et franchement, c'était pas mal. Et même, je me suis dit, tiens, il va falloir que j'essaye de voir si sur Spotify, il n'y a pas des trucs qui traînent. Donc, ouais. Disons qu'elle, pour que je la remarque, c'est qu'elle était pas mal, quoi. Vraiment.
D'accord. On passe à Apple TV Plus avec Brie Larson dans Lessons in Chemistry. Qu'est-ce que c'est, à qui?
Lessons in Chemistry, c'est l'histoire d'une jeune chimiste qui bosse dans une université, mais même malgré son diplôme de chimie, elle sert un peu de laborantine dans son truc de travail, quoi. Dans
le laboratoire.
On appelle ça. Dans son laboratoire, tout à fait, merci. Et donc, en gros, c'est un peu la secrétaire qui va faire les cafés des hommes. Et à un moment, elle va croiser la route du chimiste le plus connu de cette école, de ce centre de recherche, on va dire. Ce mec, donc, il est en bonne voie pour obtenir un prix Nobel. Et donc, en gros, il obtient toutes les subventions et il est vachement populaire. Sauf que bah, le mec, en ce moment, il se bloque un peu dans ses recherches. Et il l'a dit à personne. Et surtout, il n'est pas très social. Donc voilà, leurs chemins vont se croiser, une histoire d'amour va naître, et après c'est de l'histoire ancienne, même si leur histoire s'arrête très rapidement, voilà.
Ça se passe dans les années 60.
Ça se passe dans les années 60, tout à fait.
Oui.
Ah ouais, fin 50.
Début 50, ouais, oui, parce qu'après ça fait beaucoup de... Il y a des flashbacks.
C'est 7 ans, ouais, c'est vrai, oui.
Et donc, je sais pas si ça spoil, mais en gros, pour s'en sortir dans la vie, elle va devoir trouver d'autres moyens, vu qu'elle n'est pas reconnue en tant que chimiste, et c'est d'avoir une émission de télé sur la cuisine.
Alors,
voilà.
Je te rappelle que ça commence quand même, elle lance son émission de cuisine en montrant toutes les composantes chimiques qui se passent dans la cuisson, dans les préparations. Si tu mélanges tel produit avec tel produit, ça
tout
fait
à
ça,
fait.
Et elle explique tout aux femmes qui regardent, et l'émission est un succès.
Et donc c'est
donc,
une histoire
un
inspirante,
ouais, voilà.
Une modèle pour les femmes, voilà.
C'est pas une histoire vraie.
Non, c'est pas du tout une histoire vraie. Le bouquin, il est sorti il y a 2 ans maintenant, je dirais, 2 voire 3, non 2 ans je pense. Et il a super bien marché, ça avait été genre numéro 1 de je sais pas quoi. Il avait été sélectionné dans le book club de Reese Witherspoon et tout, enfin genre.
La consécration.
Ouais. Ah, bah, alors là, consécration.
Mais vous rigolez, mais en fait, si t'es sélectionné, tes ventes sont genre.
Mais est-ce qu'elle l'a produit? Eh ben non, elle l'a pas produit.
Eh ben j'ai pas compris ça, ben, j'avoue, mais les droits avaient déjà dû être achetés avant, parce que ça aurait typiquement pu être un des titres qu'elle produisait avec une héroïne et tout, quoi. Bref. Et Brie Larson est top dedans. Elle est très fermée et réservée, parce que c'est le personnage qu'il veut, bien sûr. Mais ouais, moi, je la trouve toujours bien, Brie Larson, de toute façon. Donc, voilà.
Ah bah voilà.
Oui.
Ouais.
Et est-ce que c'est du rétro-féminisme?
C'est quoi du rétro-féminisme?
Bah, c'est-à-dire faire du féminisme, mais dans une période où on n'en parlait pas.
Bah oui, et non, parce qu'en fait, les personnes, surtout dans la science, les femmes dans la science, qui ont fait des avancées, qui ont été des pioneers, quoi, des pionnières, pardon. ça a toujours existé. Et justement, c'est l'histoire qui les a affaissées. Donc, je dirais pas que c'est du rétro-féminisme. Je ne sais pas d'où tu sors ce terme, mais bon. Mais en tout cas, je trouve que ça raconte une histoire certes fictive, mais qui aurait pu se passer.
Oui,
voilà.
Alors tu parles beaucoup de science, mais en fait c'est quand même une émission de cuisine, hein, ce qu'il a fait connaître. Hein.
C'est une émission de cuisine, mais c'est de la science.
Oui,
okay,
oui, non, je suis d'accord.
Vulgarisation. Non, mais c'est une émission de vulgarisation scientifique.
Ah oui,
tout à fait.
Oui, non, ça c'est vrai.
Mais moi, mon plus gros problème avec la série, j'aime bien, mais le plus gros problème, c'est que on met quand même 6 épisodes à en arriver là. Et vraiment, il y a des moments où je me suis fait un peu chier. Il y a des moments qui sont exceptionnels. Enfin, la fin de l'épisode 2, j'y croyais pas trop, quoi. Mmh. Et
le début de l'épisode 3, bordel.
Ouais, l'épisode 3 et 4, ils sont vraiment top. Mais je trouve qu'il y a un peu d'acharnement sur les 4 premiers épisodes pour en arriver là. Et je pense qu'il n'y avait pas besoin d'autant pour qu'elle puisse avoir cette idée et faire ça. Donc du coup, j'étais un peu mitigé parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une espèce de vengeance sur le personnage à lui mettre tous les malheurs du monde sur la tête et en plus que ça revienne plusieurs fois. Donc
enfin je trouve pas qu'elle ait eu autant de malheurs que ça quoi.
Bah je trouve qu'elle s'en est plutôt bien sortie aussi.
Bah oui.
Après elle s'en sort bien parce que c'est ce que veut la série aussi pour nous emmener jusqu'à créer son émission. Mais entre-temps c'est un peu 4-5 épisodes de misère quoi. C'est dark.
Mais
il y a un truc que j'ai regretté pour le coup dans le bouquin, la fille occupe une place quand même beaucoup plus importante.
Dans le livre ou dans la série?
Ouais, dans le. J'ai dit quoi? Pardon. Oui, dans le livre.
Dans le bouquin. Mais c'est pour ça que j'ai. Parce que là je trouve qu'elle est très importante dans la série quand même.
Tu trouves? Parce que.
Ses épisodes à elle, donc.
Ses épisodes à elle, c'est vite dit quand même. Enfin, arc, mais elle apparaît genre 5 minutes peut-être, quoi. Enfin, bref, j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'en fait, elle a une personnalité qu'on voit, qu'on soupçonne déjà dans la série, mais qui est plutôt marrante, enfant précoce, un peu. Percutante, etc.
Comme ses parents, quoi.
Oui, tout à fait.
Vous avez tout vu?
On a vu 7, quoi.
Ouais, il en reste combien?
Moi, j'ai tout vu. 3, je crois.
Alors, il y en a 10, bon, bref.
Oui, parce que dans l'épisode 7, on la voit énormément, la fille.
Bah oui, mais c'est ce que je dis, c'est pour ça que j'ai dit ça, mais oui.
Ouais, enfin, bon. Dans un épisode, on la voit beaucoup, mais bon, pas trop dans le reste. Et.
Il y en a que 8? Non, mais c'est pas possible que ce soit déjà la fin. Alors on va avoir une saison 2.
Non, il y aura pas de saison 2. Et aussi on voit beaucoup moins d'Aviron parce que l'Aviron c'est genre une thématique vraiment centrale du bouquin, voilà.
Je pensais que c'était un personnage là d'Aviron. Non. Mais c'est qui
c'est... Non, ah bah alors attendez voilà. Parce que si tu me dis que l'épisode 8 c'est le dernier, en fait on nous a vendu.
Bah moi j'en vois 8.
C'est bizarre parce que moi j'avais lu 10. Mais on nous a vendu la série comme quoi c'était sur la cuisine et tout ça machin. En fait la cuisine comme dit Maxime on l'a au final très peu vue. Mais bon après.
Bah, ça veut dire que le pitch de la série, en fait, la manière dont elle est vendue, c'est qu'il te raconte toute l'histoire.
Oui. Clairement, oui.
Sur le site de presse d'Apple,
c'est 8 épisodes. Ouais.
Ah, mais du coup, c'est ultra mal vendu parce que moi, je m'attendais vraiment après à voir.
À Julia, toi, tu t'attendais à voir Julia, quoi.
Mais non. Ou peut-être en plus sérieux, peut-être.
Mais non, mais c'est-à-dire qu'il y a trop d'intrigues qui se percutent parce que là, l'histoire, avec Maddie qui veut essayer de comprendre d'où elle vient et elle recherche des infos sur son père, les derniers épisodes, donc je sais pas, c'est très bizarre. Bon, enfin bon, pourquoi pas.
Non, je vous dirai rien là-dessus, mais ça, bof.
Ok, d'accord.
Bon, un épisode près, c'est qu'on aurait pu attendre.
Non, mais en fait, malgré tout, la série est vraiment très très bien. Enfin,
c'est plaisant. C'est tellement émouvant. C'est pas une grande série. Mais c'est un bon divertissement. Voilà. Et c'est très touchant. Ouais. Mais c'est pas une grande série. Il n'y a pas des effets incroyables. Il n'y a pas une histoire non plus incroyable. Mais c'est juste du feel good. Voilà.
Moi, j'aime bien la période, donc c'est cool. Et j'ai appris à aimer Brie Larson.
Grâce à The Marvels, bien sûr.
Il y a une scène dans le premier épisode où je me suis dit en fait elle joue très bien et voilà.
Mais parce qu'elle joue très bien.
C'est créé par Lee Eisenberg qui est derrière Jury Duty et producteur The Office. The Office.
Ouais. Ben ça se ressent des fois.
Ouais. Ah ouais. D'accord. Donc c'est sur Apple TV+, ou peut-être une saison 2, on ne sait pas.
J'espère.
Non, il n'y aura pas de saison 2, le bouquin est fini.
Par contre, s'ils peuvent arrêter de nous faire des mini-séries, bordel, ça pourrait être bien.
Bah après c'est un choix hein. Je pense vraiment on parlait de ça justement à Castres et en fait je pense qu'il y a une véritable demande pour des mini-séries. Même quand j'en parle avec des gens comme ça, ils sont en mode il y a plusieurs saisons, ils pourraient faire une mini-série.
C'est pas des vraies séries filles ça.
J'ai pas dit que c'était des séries filles.
Oui, t'as dit
des gens qui regardent des séries, c'est tout.
Ils regardent et ils passent à autre chose.
C'est ça.
Ouais. Bon, on les veut pas, ces gens-là. On reste sur Apple TV+, avec, comme on dit au Québec, la matinale. The Morning Show, saison 3. On en est où? Parce qu'on en parle
Là, on aurait aimé que ce soit une mini-série, bordel.
Mais on est fini. Non, moi, j'ai bien aimé cette saison 3, en vrai. Ça a été un peu mon soap. Enfin, que la série est clairement devenue un soap... pour s'éloigner de toutes les thématiques journalistiques, éthiques, etc., qu'elle traitait dans les deux premières saisons. Et là, vraiment, on est dans... Je saurais même pas à quoi la comparer comme série, parce que... je sais pas, on est dans The Newsroom quand ça a vrillé. C'est un peu la même chose. Et là, ça vrille vraiment
très fort. Ce qui n'est pas forcément un compliment hein, en soi.
Non, mais c'est mieux géré ici, je trouve, que dans la dernière saison de The Newsroom, parce que là, vraiment, ils épousent le fait qu'ils sont devenus un soap. Et toute l'histoire autour de Bradley, avec l'attaque du Capitole et son frère, avec son histoire d'amour avec... J'ai plus le nom du personnage, Laura. Mais Juliana, voilà, Laura, Juliana Margulis. Même l'histoire d'amour entre Jennifer Aniston et John Hamm, enfin Simili Elon Musk là, enfin ça part vraiment très très loin en fait dans les magouilles, dans ce que la série montre de ces ultra riches, enfin en tout cas de certains ultra riches, et dans ce que ça fait faire aux personnages, et du coup ça en devient un peu jouissif, même si on sait que ça devient très con.
Le personnage de Jennifer Aniston cette saison, franchement, je sais pas ce qui s'est passé quoi, son cerveau, enfin vraiment, j'ai jamais vu un personnage qui tournait autant en rond et qui prenait toutes les mauvaises décisions possibles.
Bon, c'est un peu la base de la série depuis le départ, hein, quand même. Faut.
Non mais là c'est vénère, c'est vénère, ouais, ça va loin. Mais et c'est justement, ils sont un peu over the top et c'est ça qui fait que ça passe. C'est parce que c'est vraiment des décisions.
Mais est-ce que ça passe vraiment ou c'est juste parce
que... Non, franchement, le lancement de la fusée, déjà rien que ça, je suis désolée, ouais, le lancement de la fusée, là, genre, à quel moment tu te dis? Enfin, bref. Oui. En plus, je trouvais qu'il y a zéro alchimie toujours entre Reese Witherspoon et Juliana Margulis et pourtant, Dieu sait que je les adore séparément. Et
tu sais que, je sais pas si c'est toi... Non, c'est sûrement pas toi. J'ai vu plein de tweets qui disaient qu'il y avait plus
d'alchimie
en dehors de la série
mais
que dans l'écran, quoi.
Mais c'est vrai, j'ai retweeté de partout ça parce que je trouve que les photos behind the scenes sont beaucoup plus, plus sympas que dans la série. Bref. En revanche, j'avoue que l'arc de Bradley du Capitole, c'est le seul truc qui sauve pour moi la saison. Je trouve ça marrant, intéressant, l'aspect éthique derrière, etc. Mais en plus, je comprends rien. Je comprends pas Corey là. Franchement, il me saoule. Je l'adorais au début, mais là, je ne comprends plus le personnage. Voilà.
Non, mais là, très clairement, c'est soit il fallait que ça se termine tu fais ce que tu veux de ta série. Mais apparemment, ça continue. Alors que vu comment la série se termine, moi, je pensais que c'était la fin, qu'on avait, que c'était vraiment la fin. Mais là, il faut qu'ils dégraissent des personnages. Déjà, ils en ont trop. Ils en ont qui fonctionnent plus. Je suis d'accord avec toi, Corey. Il faut lui mettre une balle dans la tête. Enfin, il faut qu'il se passe un truc. Il est insupportable et ils essayent de faire un espèce d'arc de rédemption à la toute fin de la série que je trouve un peu abject, sachant tout ce qu'il fait.
Oui.
Surtout aux personnes qu'il est censé aimer, qu'il est censé protéger. Et en fait, c'est un immonde salaud, quoi. Mais ils essayent de le faire quand même passer pour un nice guy malgré la carapace, tu vois. Et ça m'a un peu saoulé. Et ouais, fallait que ça se termine quand même. Parce que il commence à faire ce qu'il dénonçait au début.
Donc donc c'est beaucoup moins prestigieux qu'à ses débuts, mais ça
c'est
s'assume...
C'est un soupe de prestige,
Ça s'assume maintenant, donc ça reste regardable. C'est ça qu'on peut dire.
Ouais, c'est ça, oui.
Okay. Et donc, quatrième saison, tu seras là quand même?
Alors juste pour savoir comment ils vont se dépatouiller de la fin de la saison 3, parce que vraiment je vois pas comment, à part un James the Shark énorme...
Et ou là, des acteurs prestigieux qui arrivent, on sait jamais.
Ça changerait pas grand chose en vrai.
Est-ce que oui, sans spoiler de ce qui se passe, mais est-ce que Reese Witherspoon sera encore là? Est-ce que Juliana Margulis sera encore là? Jennifer Aniston, il y a peu de doutes, mais il y a beaucoup de personnages où tu te demandes où ils vont être. Et soit ils vont avoir une saison 4 très très éclatée, soit ils vont faire un truc, je sais pas comment ils vont y arriver, mais ça va être drôle.
Si on en croit Nicole Kidman, ils vont faire une saison 3 de Big Little Lies, donc Reese Witherspoon, si elle est pas là, ça serait normal.
Enfin ça va, 6 mois,
ouais,
quoi.
6 mois, de suite.
Et parlons justement de personnages qui s'en vont ou qui arrivent. En vrai, je me souviens plus du tout des départs de certains personnages de des saisons précédentes.
Et Steve Carell, il est toujours là.
Et je suis en mode, mais
ah ouais. Non, ok.
Maintenant, il est mort.
Ah ouais.
Mais il est mort.
Ah ouais. Mais je l'ai pas. Je suis pas arrivé jusque là alors.
Ah sérieux.
Il est mort en saison 2.
Ah oui. Mais juste, je sais pas où ils sont, quoi. Genre les autres présentateurs, ils sont partis où? J'ai oublié en fait.
Non, mais ils sont là. C'est juste qu'on les voit beaucoup moins. Mais Pierre Bonnell, il est encore là.
Okay.
Mais on le voit,
il meurt jamais, lui.
Une minute par épisode.
Ouais, voilà, bref, jamais.
Merci,
Tom. Je suis un peu en mode, je suis perdu.
Mais justement, ça a été une grosse critique sur les les articles que j'ai pu voir, c'est la place de, mince, je sais plus comment elle s'appelle, mais la présentatrice afro-américaine.
Nicole DeBerry, là.
Ouais, et de la manière dont ils avaient commencé un arc avec elle et qu'ils l'ont abandonné en plein milieu.
Ouais.
Et du coup, bah, tout le monde s'est dit, c'est un peu bizarre, on a l'impression qu'en fait, c'était vraiment juste pour appâter le chaland. Et du coup, c'est le cas. Que de vraiment dire un truc.
Ils ont encore, enfin, ils avaient changé de showrunner, non? En cours de route.
Il y a que
des problèmes en coulisses, je crois qu'ils changent de showrunner quasiment toutes les saisons.
Bref, c'est, ouais. Ça se regarde, hein, quand même. N'exagérons pas, hein, mais bon.
Mais c'est dommage que ce soit la vitrine de Apple TV, alors que c'est clairement pas la meilleure série.
Oui, c'est
quoi,
ce que j'avais demandé. Est-ce que ça reste encore la vitrine?
Bah oui, rien que par le casting, en fait.
Bah, puis parce que c'est aussi une de ses séries les plus anciennes.
Yes.
Enfin, en tout cas, encore.
Saison 3, on dit ça, c'est fou.
Mais, bah ouais, non, il y a For All Mankind qui a de l'avance.
Oui, après, ouais, c'est récent, la plateforme, hein, faut pas l'oublier.
Oui, mais saison
normal. 3
en 5 ans. Bon.
Mais de toute façon, s'ils font venir un autre Friends pour jouer avec, enfin, un ancien Friends pour jouer avec Jennifer Aniston, la saison 4, tout le monde la regardera.
Ouais, j'avoue, s'ils font venir Courtney Cox, par exemple.
Pour refaire un petit Dirt, là.
Ouais.
Ou un Cougarton, oui.
Donc, c'est sur Apple TV+, on passe sur Prime Video avec Upload saison 3. Après la désastreuse saison 2, la série est revenue quasi dans l'indifférence générale. À qui ça donne quoi, cette saison 3?
Je comprends au début, c'est vrai que ça repart mal. Bon, en fait, c'est moyen tout le long de la saison. Et je comprends pas non plus si ça a été renouvelé.
Alors,
ou
à la base, ça aurait dû être la dernière saison. Et là, il a dit, on a fait des cliffhangers parce qu'on espère être renouvelé. Donc,
voilà. Donc, en fait, je trouve qu'ils exploitent mal tout ce qui est autour du download et de l'upload. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'ils étaient partis un petit peu pour en parler avec les activistes slash éco-terroristes. Ouais. Enfin, bref. Je trouvais que ça donnait un petit peu de contenance, on va dire, à la série, mais au final c'est juste une comédie et qui se contente d'être une comédie.
Pas droit, en plus.
C'est pas plus mal. Alors ça, bon, à chacun ses goûts, mais après c'est pas plus mal, mais je trouvais qu'elle aurait pu avoir plus d'ambition en sachant qu'il y avait de quoi parler, quoi. Et au début, je trouvais, comment il s'appelle déjà, le héros, Robbie, là, l'acteur.
Robbie Amell.
Robbie, voilà, c'est Robbie, je trouvais plus le prénom. Robbie Amell, au début, je le trouvais plutôt bon, mais là, je trouve qu'il est de moins en moins bon.
Clairement.
Et je ne comprends pas, alors qu'il a genre deux fois plus de possibilités de jeu, et il est moins bon, et je suis un peu perturbée
par ça. Parce qu'il travaille deux fois plus, donc en fait, il est divisé en deux la qualité de son travail, mais non.
Et en fait, le running gag de « oui, c'est juste un BG », ça suffit à un moment aussi.
Mais
quoi.
Oui, je viens de regarder deux épisodes et il n'y a que ça comme blague sur lui. C'est une tristesse.
Ouais.
Oh mon Dieu, non, c'est une catastrophe, saison 3. Mais non, bon.
Donc, c'est un peu léger, quoi.
Non, c'est vrai que les blagues...
Tout tombe à plat.
Bon, déjà, je ne me souvenais plus du tout de la saison 2. Et le Previously m'a encore plus perdu.
Pareil.
Et surtout que la saison 3, en fait, est un peu... Ça raconte rien. Enfin, là, j'ai pas terminé, mais ça ne raconte absolument rien. Et quand ça veut raconter quelque chose, bah, soit c'est par des blagues qui tombent à plat, parce que c'est ultra facile, bas du front, c'est pas drôle. Soit c'est des personnages dont on s'en contrefou, mais alors je sais même plus qui est qui. Et quand il utilise enfin l'univers, c'est vraiment par mini-dose. Alors qu'ils ont un putain d'univers et ils n'utilisent même pas. Alors qu'ils ont plein d'idées, mais c'est pas l'histoire.
C'est un gâchis monumental. C'est un gâchis monumental ce qu'ils ont fait.
Et c'est dommage,
clairement.
Vraiment très dommage.
Oui.
On pouvait pas faire mieux à la période à laquelle on est, avec tout ce qu'on parle d'intelligence artificielle et tout ça, on pouvait pas faire mieux, c'était tombé très bien. Et en fait, tout est à côté. Craig Daniel, je sais pas si c'est lui qui est en train de charronner ce bordel, mais c'est une catastrophe ce qu'il est en train de faire, vraiment.
Je me rappelle encore de la première saison quand il arrive en bas là, vous savez, quand les gens qui ont pas de crédit, franchement c'était super drôle, et ils en parlent 10 secondes et genre c'est fini, alors que enfin le gamin qui est toujours le premier chapitre d'Harry Potter, ça va me rester, vous voyez, alors que là je peux rien vous citer comme blague, et même les genre
il y a que le mec qui fait de le qui est partout dans l'immeuble là, le rouquin là, le
le groom, un peu.
Moi le truc il dit AI guy, donc voilà, donc merci, mais voilà, il y a que ça qui est drôle, quoi. Et encore, il mise que là-dessus, quoi.
Ouais. Bref.
Parce qu'il était drôle la saison dernière, et donc, en fait, il met, c'est une catastrophe.
La saison 2 était ratée parce que mon Covid, machin.
Moi, je trouve pas que la saison 2.
À mon avis, c'était peut-être des excuses. Si, attends, c'était mal écrit, c'était rushé. Oui,
bah, c'était moins comédie.
Mais elle était plus ambitieuse.
Du coup, ça m'avait pas dérangé. Voilà, exactement, ça m'avait pas dérangé.
Oui, on pensait qu'ils allaient aller quelque part, quoi.
Mais pas, la preuve que non. Ouais. Dans le mur.
Ouais.
Mais du coup, est-ce que c'est quoi? C'est une série gâchée? C'est un concept trop... Enfin, ils savent plus où ils vont? Est-ce que ça peut être corrigé ou pas?
Mais ça peut être corrigé, franchement.
Bah, si on leur donne une saison 4, parce que bon...
Oui.
Je suis pas sûr qu'il l'ait. Hein.
Et ça, c'est pas sûr. Clairement. Ouais.
Bon. Très bien. Donc, c'est sur Prime Video, pour ceux qui veulent tenter. L'illégal du moment, mais bientôt sur Canal+. Depuis le 29 octobre, c'est Fellow Travelers, Maxime.
Tout à fait.
C'est qu'est-ce que c'est?
C'est la meilleure série de l'année.
Oh. Ouais, quel monde.
Non, non mais c'est une histoire d'amour en fait qui va des années 60 aux années 80 entre deux personnages, Tim et Hawk. Je me souviens plus de son prénom, mais il l'appelle tout le temps Hawk, qui sont joués par Matt Boomer et Jonathan Bailey. Et en gros, on suit leur histoire d'amour à travers des décennies qui vont un peu définir en fait la communauté homosexuelle et la manière dont tu peux vivre ta sexualité. Et donc, on commence dans les années 60 où très clairement ils sont tous dans le placard et c'est en pleine période du macartisme où ils sont chassés de l'administration.
Et ce que je ne savais pas d'ailleurs, je pensais qu'elle est vraiment l'homosexuel, c'était vraiment que les communistes, mais je pensais pas que c'était aussi la communauté homosexuelle, tu vois.
Ah ouais, oui,
c'est, ça, et même d'autres communautés, ils y sont allés très fort. Et après, tu les suis dans les années 80 sur l'épidémie du sida qui a touché un des deux personnages. Et moi, je trouve ça génial. On n'apprend pas grand chose si on s'est un peu intéressé au sujet dans. À travers d'autres œuvres, moi, ça m'a fait beaucoup penser à Harvey Milk sur les conséquences du sida et voilà les conséquences politiques, les causes politiques aussi. Ça peut faire penser aussi un peu à Pose quand elle racontait cette épidémie du sida des années 90. Là, on est un peu avant, mais c'est un peu raconté de la même manière. Mais ce qui sort la série du lot, c'est vraiment l'histoire d'amour entre les deux personnages qui, pour moi, est très très rare à la télé. De voir une relation où qui n'est pas sans défaut. Il y a un rapport de domination assez fort et qui est
culpabilité aussi. Hein,
ouais. Oui, c'est vrai. Oui, de culpabilité. Mais on essaye d'explorer de quelle manière ils vont tomber amoureux et ça se voit à l'écran. Et ça,
ça
c'est...
pue le sexe.
Ça pue déjà, le sexe tout de suite.
C'est sur Showtime, alors est-ce que
Oui, très, très. Très clairement. Alors, il y a des scènes vraiment chapeau les acteurs pour avoir gardé.
Et il a vraiment mis le pied dans la bouche. Hein.
Ça.
Oui, oui.
c'est vraiment ultra chaud.
Et avec des scènes de sexe qu'on a franchement jamais vu ailleurs.
Ouais, je trouve aussi, franchement.
C'est les plus crédibles qu'on ait pu voir et c'est les trucs les plus hauts qu'on ait pu voir.
Mais parce que
les deux acteurs,
c'est une relation entre deux personnages et ils explorent leur sexualité en même temps qu'ils explorent leurs sentiments et du coup
c'est vraiment très bien fait,
t'as raison, beaucoup mieux parce que on sait que c'est fait avec du désir en fait, c'est ça, c'est j'ai très rarement vu du désir à la télé de cette manière-là et ça c'est super, ça fait vraiment du bien parce que ça enlève un peu aussi le cliché de la sexualité un peu à la Queer as Folk qui était quand même très froid dans la manière de l'aborder. Là, ça ne l'est pas du tout, c'est très chaud et en plus c'est fait avec la réalisation qui je trouve sublime un peu tout le truc. Enfin franchement super boulot à tous les plans quoi.
Et les deux acteurs aussi sont vraiment exceptionnels.
Jonathan Bailey, Jonathan Bailey quoi.
Oui, Jonathan Bailey, genre j'ai trouvé ça hallucinant comment. Je sais pas si c'est homophobe ce que je vais dire, mais comment dans Bridgerton il fait tellement hétéro et comment là dès les premières secondes de Fellow Travelers il fait gay en fait. Bref.
Il faudra couper le montage, je pense.
Pour moi, c'est pas qu'il fait gay, c'est que il a quelque chose qu'il réprouve en lui. qui fait penser un peu à ce que les gays peuvent être quand ils ont, ils sont pas out. Et du coup, qui fait que, oui, en effet, tu le spots et il a super bien joué ça, mais il joue aussi super bien derrière, dans les épisodes d'après, son émancipation. Et du coup, tu lui trouves moins des airs gays, entre guillemets, parce qu'il s'assume.
Je vois complètement ce que tu veux dire.
Et il aurait pu faire un super Superman parce que, ou Clark Kent, parce que quand il enlève ses lunettes, c'est pas le même.
Je pense qu'il est un peu petit en taille. Mais.
Oui,
je tiens à dire. Oui. Et Matt Bomer, c'est vrai que je trouve qu'il joue toujours le même rôle, mais dans ce rôle-ci, il est quand même beaucoup plus convaincant. Il joue toujours le rôle du charmeur.
Et... C'est impressionnant le charisme qu'il dégage.
Oui, je dois avouer que là, en fait, tu lui mets un costume trois pièces et c'est bon, en fait. Vraiment. C'est grave. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il est bien dirigé.
Il est bien dirigé, alors que d'habitude, il est un peu en roue libre. Je suis d'accord avec toi quand tu le vois chez Murphy, par exemple. Il y a un côté un peu.
Fake.
Un peu. Oui. Ouais,
vraiment
voilà.
Fake.
Il en fait des caisses, oui.
Et là, en fait, son personnage le contraint. Il fait moins de caisses, mais il lui permet aussi d'être, de garder un peu cette image qu'il a de Playboy, en fait. Et c'est, enfin, j'ai trouvé ça top.
Et qu'est-ce qui prend des photos?
C'est moi, pardon, je voulais vous envoyer. je voulais vous envoyer parce qu'il y a le chat qui est devant moi.
Oh, super. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est les maquillages.
Ah bon?
Ah ouais?
Parce que bon, c'est les la fin des années 50 et la fin des années 80. Je suis pas sûr que Matt Bomer aurait vieilli comme ça avec 30 ans dans la gueule. Mais bon, après, je trouve qu'il fait plus frais. Il fait plus frais dans les années 80 que dans les années 50.
Mais attends, là, on parle d'un mec de droite.
Non, mais j'ai trouvé le maquillage assez réussi là-dessus. Hein.
Ah, moi aussi, avec les taches de lycée, c'est chaud, là.
D'ailleurs, on redécouvre Alison Williams, qu'on voyait très peu depuis Girls.
Ouais.
Elle est bien dedans.
Ça fait
tellement bien que j'avais
rien,
pas reconnu.
Quoi.
C'est fou, quoi.
Elle sert franchement à rien. Je préfère la secrétaire, déjà.
Ah oui. Oui. Mais parce qu'elle a plus de choses à jouer aussi, la secrétaire. Oui.
Bien sûr.
Très bien. Donc, ça sera prochainement sur Canal+.
C'est vrai que c'est cool de revoir une série, un drame sérieux, bien foutu, avec un couple gay en personnage central, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Voilà. D'époque en plus.
Une mini-série du coup.
Oui. Encore adapté d'un bouquin.
Enfin, adapté d'un bouquin, donc ouais.
Et sachant qu'à l'épisode 4, on n'a toujours pas vu les années 70.
Ok. La série attendue par un certain fandom, c'est Scott Pilgrim, l'adaptation de la BD qui est arrivée sur Netflix avec le cast original du film qui était adapté de la BD. À qui, qu'est-ce que ça donne?
Alors, je pense que tout le monde connaît Scott Pilgrim. Je sais pas comment raconter l'histoire. En gros, c'est un gars un peu loser qui a un groupe de musique qui s'appelle les Sex Bob-ombs et il va tomber amoureux d'une fille qui arrive en ville, Ramona Flowers, donc qui est le personnage qui a un peu créé la Manic Pixie Girl. Et du coup, donc c'est Michael Cera dans le film qui jouait Scott Pilgrim, et là donc effectivement c'est lui qui le double. Et autour de lui, c'est tout le cast un peu indé que tout le monde aime quoi en fait. Genre Marie-Elisabeth Winstead pour Ramona Flowers. Il y a même un peu de Aubrey Plaza là-dedans. Il y a du Brie Larson avant qu'elle devienne Captain Marvel. Il y a du Chris Evans avant qu'il devienne Captain America. Donc franchement, c'est que des gens qu'on aime bien. Moi, je trouve que le doublage est pas ouf. Désolée.
Je le trouve pas ouf.
Je le trouve pas très vivant. Et donc, en fait, là aussi, le studio d'anime, c'est un studio japonais, qui est pas non plus si connu que ça, mais qui avait fait quelques collabs, déjà avec des licences américaines. Et en fait, j'ai pas du tout accroché au graphisme non plus. Je m'attendais, en fait, je trouve que c'est trop entre un truc américain et entre un truc japonais. Et donc, du coup, je m'y retrouve pas. Et après, les couleurs sont très belles, je comprends, enfin les personnages marchent bien, et l'histoire, c'est vraiment la même histoire que celle d'Edgar Wright, enfin pardon, du comics, donc j'ai un peu oublié le nom de l'auteur du comics, désolé.
T'avais regardé le... T'avais lu
non, moi je n'ai pas de comics, désolé. Ouais, c'est...
Donc c'est peut-être pour ça que t'as pas, parce que ceux qui attendent c'est vraiment les fans du comics.
Bah oui, les fans parce du film. Moi qui adore
le film, la série m'attire pas du tout.
T'es un faux fan en fait.
Parce que l'univers graphique.
Pourtant c'est le même dessin que le comics, donc c'est ça que je comprends pas.
Oui, bah c'est ce que je viens de te dire.
Voyant tous les trucs que j'avais bien aimé du film, donc les côtés, l'animation qui était incrustée dans le film, etc. Bah évidemment je le retrouve pas là dans la série animée, et il y a des je sais pas pourquoi ça, je l'attendais beaucoup et c'est pas, ça a pas meet my expectations quoi.
Moi je trouve un chouïa trop long. Alors après tu me diras, c'est 8 épisodes de 25 minutes, le film il faisait 2 heures, donc c'est pour ça que je trouve que ça perd un peu de punch, mais je trouve ça très réussi quoi. J'ai pas de problème avec le doublage, j'ai pas de problème avec l'animation, je prends toujours autant mon pied devant que devant le film quoi.
Est-ce qu'ils ont repris les voix françaises?
Alors là, bonne question. Bonne question, tout à fait. On ne sait pas.
Est-ce qu'on a
le casting vocal américain, enfin les acteurs.
J'adore
qu'ils soient tous revenus quoi.
Prouve qu'encore une fois, ces gens-là sont des gens vraiment cool et terre à terre quoi. Franchement.
Oui, parce qu'a priori, ils ont un groupe WhatsApp et qu'ils utilisent encore 10 ans après.
Il paraît qu'il était inactif pendant très longtemps. Ouais.
Quand ils étaient occupés avec Marvel.
Oui, sûrement. Donc voilà.
Bon, du coup, oui.
C'est toujours cool. La musique est toujours très cool.
C'est une curiosité.
Et tout,
Je pense que ça va permettre aux gens qui n'ont pas vu le film de découvrir le Scott Pilgrim. Et c'est toujours très bien de découvrir Scott Pilgrim, quoi. Voilà.
Je sais pas si au final, avec le recul, il est un peu overrated comme film ou pas.
Non, mais overrated, je sais pas. Mais en tout cas, il est culte.
Il a quand même toujours eu une bonne presse, ce film. En tout cas, c'est l'impression que j'ai.
Toi qui ne l'as pas vu.
Je l'ai vu. La série, mais le film, j'aime beaucoup.
Très rapidement, pour terminer, Frasier, le retour de Frasier, est-ce que ça vaut le coup?
Étonnamment, oui.
Ah, c'est bien, je suis content d'entendre dire ça.
Parce qu'on dit que ça n'a rien à voir avec, c'est une sorte de spin-off sur lui-même, quoi.
Oui, clairement, c'est ça, c'est une espèce de spin-off sur lui-même, et en effet, on n'a pas tout emporté, mais ils ont quand même réussi à retrouver une dynamique de série qui fonctionne, et qui est drôle.
Ouais.
C'est là où j'étais surpris, parce que je m'attendais vraiment à un truc ronronnant, notamment vu l'âge de Kelsey Grammer, on n'est plus... on n'est plus il y a 20 ans quoi, et ils arrivent encore à faire rire de manière intelligente sans avoir de propos forcément très importants, mais non franchement moi je me suis bien marré là, il y a 7 épisodes je crois,
il y en a combien en tout,
et
je sais pas 10 je crois,
j'attends que ça finisse, ouais.
Et c'était quand même, c'est vraiment plaisant de les retrouver.
Et j'ai la chance ou pas, j'en sais rien. J'avais commencé la saison 1 de Frasier il y a longtemps, mais comme je n'aimais pas beaucoup, j'avais laissé un peu de côté. Et comme je savais que la série arrivait, je me suis dit, je vais me forcer à reprendre. Donc j'ai terminé la saison 1 et j'ai enchaîné avec la saison 2. Donc je l'ai plus ou moins dévoré parce que j'avais rien d'autre à foutre. Voilà. Et en fait, c'est très drôle parce que les scénaristes de la version 2023 je sais pas si c'est conscient ou pas, mais en tout cas, ils reprennent quasiment les mêmes intrigues des saisons 1 et 2 dans les premiers épisodes. Et en fait, c'est les mêmes vannes, c'est les mêmes machins. Donc en fait, si tu connais pas la version originale, tu passes à côté. Malgré tout, ça marche tout aussi bien. Et si tu connais un peu le reste, et bon, après, c'était frais de mon côté, mais c'est point par point, plus ou moins le même processus qui arrive à Frasier. Il s'installe dans une ville et il rencontre les gens. Et puis au fur et à mesure, il fait ça dans son cabinet là, non pas le cabinet, le truc de groupe de riches là où pour faire les machins là, le club, c'est exactement les mêmes choses et je trouve ça très drôle de pouvoir suivre les deux en même temps pour le coup je préfère Frasier 2023, mais bon ça c'est un autre débat, mais le parallèle moi je trouve ça plutôt sympa quoi.
C'est sur Paramount Plus. Donc en France
tout à fait.
Rapidement, Bodies sur Netflix, à qui cette mini-série Est-ce que ça valait le coup?
Vous êtes sûr que c'est une mini-série?
Bah
putain, mais pour moi, la dernière scène, ça appelle une saison 2.
On est pas là. Bah,
je suis fou, c'est fou, ouais. Ça. Quand même.
Bah oui, oui. Franchement, j'étais la première surprise parce que bon, les enquêtes, c'est vu et revu un peu, je trouve. Mais bon, le petit twist là, donc c'est le même cadavre qui est trouvé à trois époques différentes, enfin quatre, pardon, quatre ouais. Époques différentes en termes de chronologie sur notre ligne temporelle. Une fin des années 1800, une autre un peu après la Seconde Guerre.
1941, ouais. 2023 et 2053.
Voilà. Forcément, les méthodes d'investigation sont différentes. Non, c'est bien fait. On comprend que au début, on se demande si forcément est-ce qu'il y a quelque chose de paranormal là-dessous ou pas. Et plus l'histoire avance, plus on comprend les enjeux qu'il y a. Même si je trouve que sur la fin, c'est un peu résolu rapidement par rapport à la mise en place. Enfin, c'est un peu déséquilibré, on va dire, au niveau du rythme.
Clairement, ça prend du temps. Hein.
Ouais, ça prend un peu trop de temps. Donc, j'aurais plutôt fait un ou deux épisodes de plus sur la fin et un ou deux de moins au début. Enfin.
Bah, j'aurais fait toujours 8, mais avec décalé, quoi.
Ouais, clairement. Donc, ça, c'est un peu dommage, mais sinon, les acteurs sont très bien. Non, c'est assez original et franchement, j'aurais bien vu. Enfin, c'est bien que ce soit sur Netflix parce que ça remonte un peu le niveau.
Mais c'est tiré d'un roman graphique de chez DC Comics.
C'est Vertigo en plus, non?
Ah ouais?
Ok.
Ouais.
Stéphane, la saison 7 de Rick and Morty pour l'instant?
Eh ben, pour moi, c'est un. Sur 5 épisodes, il y en a qu'un que j'ai pas aimé, c'est celui avec le président. Là, à chaque fois qu'il apparaît, j'ai envie de. Voilà,
oui,
de
oui, c'est vrai.
Mais après, sinon, c'est un sans faute. C'est encore plus nihiliste que d'habitude. Et je trouve que le dernier épisode, l'épisode 5, là, qui arrive en plein milieu.
C'est d'une densité. Ah ouais. Déjà, ça va très toujours. Vite, mais alors les idées visuelles.
Il y a même des fois, je suis obligé de faire marche en arrière pour essayer de voir si j'avais bien compris ce qui s'était passé. Donc voilà. Non, l'épisode 5, c'est très bien. Je sais pas ce qui. Peuvent raconter et tenir maintenant. Je trouve que la saison 7 est vraiment exceptionnelle jusqu'à présent. Quoi.
C'est vrai que il y a eu un ventre mou hein, quand même. Pas la 3, parce que bon, mais elle était très sombre, la 3. Mais la 6 était redevenue quelque chose d'assez fou parce qu'on perdait le côté sombre et on gagnait vraiment en idée visuelle, scénaristique, tout ça. Et là, je trouve que oui, ils ont eu l'audace quand même de nous faire deux fins d'épisode, la 4 et 5, qui se rejoignent quand même assez, et d'une tristesse absolue, voire même la scène post-générique là avec les deux races aliens là, qui cherchent leur moitié et qui se retrouvent, c'est pareil. Et ça m'a fait bizarre de retrouver le Rick and Morty un peu sombre, mais ça ne s'arrête jamais, en fait. Et c'est fou. Tout ce qu'ils peuvent encore raconter.
Et alors, parce que j'ai lu une interview, parce qu'ils ont fait un débrief de cet épisode 5, parce qu'il était quand même très important. Ah. Et Dan Harmon a dit que les deux scénaristes, c'est des gens qui avaient commencé sur la série en tant qu'aide pour les scénaristes. Voilà. Et au fur et à mesure, ils ont grimpé les échelles. Et eux, c'est des fans de la première heure. Il a dit, je leur ai fait confiance de faire cet épisode-là, qui est crucial pour depuis les deux dernières saisons de saison et demie là maintenant et il a dit tant pis je laisse faire et puis on verra ce qu'il arrive voilà
et aussi ce qu'il faut noter c'est donc l'absence de Justin Roiland qui faisait la voix de Rick and Morty qui a été viré qui a été remplacé et ben on voit pas du tout
j'ai quelqu'un qui m'a tenu mordicus qu'il entendait une différence et j'ai du mal à le croire
c'est vrai que sur Morty il y a un petit truc
ah bon. Oh non.
Sur Rick, si on tend l'oreille vraiment, il y a un petit truc, mais c'est bluffant. Quoi.
Ouais. Ouais, non, grave. Voilà. Merci, non, Stéphane. Si on m'avait pas dit qu'ils avaient changé, je l'aurais pas vu.
Oui,
quoi.
Oui,
donc,
non, c'est
clairement.
Clair.
Ouais. Bah, en revanche, j'ai juste un point négatif, c'est Morty est trop mis en retrait. Voilà.
Comme sur les trois premiers, je m'étais dit tiens, où est-ce qu'il est ? Bon, après ça revient.
Et l'épisode sur les lasagnes des gens qui meurent, qui suicident.
Les spaghettis, c'était fou.
Les spaghettis. Ouais.
Alors, est-ce que ça parle des végétariens et des carnivores, enfin des viandards ou pas du tout ?
Je sais pas, mais en tout cas, c'était très glauque et ça m'a un peu retourné, j'avoue.
On revient sur Apple TV+, avec la saison 4 de For All Mankind, qu'on aime beaucoup ici, enfin surtout chez vous. ça vient de commencer, où est-ce qu'on en est ? Qui veut dire si c'est bien ou pas, ça vaut le coup.
Épisode 2, là, c'est ça hein.
Ouais.
Est-ce que c'est bien parti, Maxime ?
Moi, je dis que c'est mieux après, c'est tout ce que je vais vous dire. Franchement, c'est vraiment mieux après.
Ben, c'est un peu, j'en ai un peu parlé avec Stéphane sur les deux premiers épisodes. Déjà, moi, j'ai eu très très peur sur le premier épisode parce que je trouve qu'ils gèrent de moins en moins bien le bond dans le temps qu'ils font. Où en fait, on réinstalle à chaque fois une espèce d'utopie où tout s'est bien passé et le but a été atteint. Donc la Lune, là, c'est Mars. Et du coup, je trouve que ça manque un peu d'aspérité. Et ça, c'est un peu redondant dans sa manière d'installer sa saison. Après, maintenant, j'ai fait un peu confiance parce que j'avais un peu ce ressenti sur la saison 3. Et la fin de la saison 3 était vraiment très, très bien. Donc, ils arrivent quand même à chaque fois à faire du divertissement. Mais je trouve qu'ils perdent un peu de...
De fraîcheur.
De fraîcheur, ouais, et de réalisme. Là où je trouvais que les saisons précédentes conservaient quand même encore cet aspect un peu réaliste. C'est une uchronie, mais sans être non plus... déconnecté de la réalité à la fois politique, économique, voilà, ça coûte cher.
Mais c'est là où la fin de l'épisode 2 m'a dit, enfin avec ce qui se passe pour Margot qui est perdue en Russie là, où tu comprends pas ce qui arrive et voilà, et c'est là où je me suis dit bon, heureusement, ils vont tempérer un peu ce qu'on voit et le côté comme tu disais un peu utopiste de l'entente entre les Américains, Helios, les Russes et les Nord-Coréens. En plus ils ont leur base, on n'a pas le droit d'y aller, voilà quoi. Et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait aussi sur l'introduction du personnage de Toby Kebbell, Miles.
Je déteste ce type, je comprends pas, putain, il me saoule, je vois sa tête, j'ai envie de le baver.
Alors c'est vrai qu'on se tape quand même Joel Kinnaman et Toby Kebbell, c'est carrément pas les mecs avec les plus de charisme. Bon, malgré tout, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'était plutôt pas mal. Alors, je ne sais pas s'il est voué à reprendre la tête de la série une fois que...
Ah, j'espère pas, là, ou quoi?
Je vais me défoncer les oreilles.
Pardon.
Non, mais parce que donc là, franchement, Joel Kinnaman s'y tient jusqu'à la fin de la saison.
Ouais, bah moi, j'espère. Bah, voilà. De vieillesse, ne serait-ce que ça, quoi.
Après, comme on dit, c'est plus crédible. À un moment donné, il faut le foutre à la retraite, quoi.
Bah donc, oui. Voilà. Déjà, ce qui n'est pas crédible, c'est que Daniel soit revenu commandement.
C'est normal, mais il y a une explication logique.
À la limite, de conserver Daniel ou même Hélène, ça aurait eu une logique parce que elles ont eu des postes de
responsabilité
avec du pouvoir à responsabilité. Ouais. Et généralement, dans ces milieux-là, tu conserves jusqu'à ce qu'ils aient 80 ans. Voilà. Tu regardes le président. Enfin voilà, il aurait été logique qu'elle reste.
Ouais, une femme noire, moi, j'en doute, mais bon.
Bah, c'est une uchronie.
C'est pas du tout logique.
Bah oui.
C'est pas du tout logique. Tu le mets, le mec, il a plus de 60 balais.
Mais oui.
Tu le mets à la tête d'une mission pour aller sur Mars. Enfin, je trouve que ça a aucune.
Je vous rappelle qu'après c'est toujours Helios, hein. C'est une entreprise privée, donc voilà quoi. Mais
non, lui, il est pas Helios, lui, il est NASA.
Il est pas de la NASA, hein.
Ah, il est Helios.
Moi, j'ai compris qu'il était, il faisait partie toujours de Helios, hein.
Mais même, il y a un truc qui se, enfin, je sais pas, ils font aussi des checks pour avoir les personnes qui sont les plus aptes.
Mais oui.
Enfin, faut pas me faire croire qu'en 20 ans, ils ont pas trouvé quelqu'un d'autre d'aussi apte que lui à faire ça.
Surtout, tu vois sa tête, tu vois qu'il est pas apte, quoi.
C'est pour ça, on va chercher des gens qui représentent quelque chose et représentent encore plus quelque chose, quoi. Voilà.
Mais peut représenter quelque chose sur Terre.
Dans l'épisode 2, il se prend un retour de bâton avec donc le personnage de Toby Kebbell qui est en train de lui dire, oh mec, t'es bien mignon, mais tu nous traites pas comme de la merde. Et la façon dont parle Ed à Daniel, des gens qui ne sont pas des cosmonautes, cosmonautes, astronautes, et qui ne font pas ingénieurs, voilà quoi. Enfin, il est descendu dans mon estime. Là. Il a beau être une figure,
il était pas très haut, hein, je peux te le dire.
Deux épisodes, vous avez beaucoup de choses à dire.
Ah, mais oui.
Quand la saison sera finie.
Mais attends, il s'est déjà passé au moins 4 heures. Et l'épisode 1, il faisait 1h10.
On termine par les séries françaises. Stéphane, sur France 2, Sambre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça vaut le coup?
Alors, c'est très bizarre de me poser la question, moi, parce que c'est une série adaptée d'un fait réel. Donc, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à me jeter dedans. C'est du Lestrade, donc je savais que ça allait être de qualité, ça l'est. J'ai regardé les 3 premiers épisodes. Le seul problème, c'est que ça dure 1h06 à chaque fois et j'ai pas la capacité intellectuelle de pouvoir suivre un truc aussi intense et violent sur autant de temps, quoi. Mais c'est très bien.
Jean-Xavier de Lestrade, c'est celui qui a fait 3 fois Manon. Oui,
Laetitia,
jeu d'influence.
Non, c'est pas. Et il a fait des documentaires aussi qui étaient très bien, mais je pense qu'il aurait été mieux que ce soit un documentaire plutôt qu'une série, où j'ai toujours du mal à voir un méchant, un vrai mec qui a buté des gens ou violé des gens. Voilà, moi ça me perturbe, donc okay. Non.
Bon, c'est voilà. Pas grave.
Mais c'est très bien, vaut mieux regarder ça que Master Crimes, quoi. Voilà.
Ah, alors Master Crimes avec notre ami Muriel Robin sur TF1.
Ah ben c'est toujours moi.
Est-ce que c'était le... Oui, oui.
Ben...
Est-ce que c'était une... vraiment la copie de Murder?
Le plagiat?
Non, alors...
Vu que c'était non assumé
Non, parce que c'est mélangé avec un genre de The Mentalist en même temps, tu vois. Il y a plus trop d'influence dedans. Oui, en effet, c'est une prof de criminologie qui va chercher des élèves pour travailler sur un truc. Bon, mais après c'est tellement con, c'est tellement mal écrit, c'est pas drôle, c'est mal réalisé.
Mais ça cartonne.
Mais oui, après ça cartonne. Mais tu vois, mes parents, ils ont regardé, ils ont adoré. Mais bon,
bah, voilà. Est-ce qu'elle est lesbienne dans
non,
la série?
Alors c'est ça. Ça me trouve le cul. Muriel Robin joue avec sa compagne dans la série.
Je sais plus quoi.
Voilà. Non, ben non pas le ni. Nen, ouais, si.
Bah, ça accompagne.
Ok, d'accord.
Vie,
bon,
c'est
okay, peut-être. Elles jouent toutes les deux dans la série. Elles jouent toutes les deux des hétéros et elles, a priori, ben.
Ah
voilà.
Ouais. Ça me choque. Je suis désolée, mais ça me choque. Elles sont même pas bi.
J'ai pas tout regardé. Peut-être qu'il y a une grosse surprise parce que je me suis fait avoir par un twist dans l'épisode 2. Donc, on n'est pas à l'abri d'une surprise.
Et après, il y a une grosse polémique sur quand elle dit à la télé, à la télévision,
c'est ça.
Que les lesbiennes n'ont pas de rôle une fois passé un certain âge ou parce qu'elles ont dit qu'elles étaient lesbiennes. Enfin, désolé, mais
c'est ce que j'allais dire. En fait, ça aurait été genre l'exemple parfait pour la ronde. Enfin, pour.
Faisons attention parce que, comme je vous dis, moi, j'ai vu que les deux premiers épisodes et peut-être que dans la suite, il va se passer un truc comme ça. Parce que c'est vrai qu'elles ont une complicité. Les deux personnages ont certaines complicités. Voilà, bon.
Est-ce qu'elle joue le rôle un peu de Bonnie, du coup, sa compagne, ou pas du tout? Ou rien à voir?
De Bonnie?
Elle s'appelle pas Bonnie? J'ai un trou de
mémoire. Dans How to Get Away.
Je sais pas, parce que How to Get Away, j'ai déjà pas regardé, donc je vois pas qui c'est Bonnie.
Ah ok, c'est pas grave. Voilà.
C'est celle qui jouait dans Gilmore.
Oui, non, mais je vois qui jouait, mais je sais pas ce qu'elle jouait, donc je peux pas te le dire. Voilà.
Ok, c'est pas grave. Ouais.
On finit par les pourquoi on n'en parle pas. Wolf Like Me saison 2, personne n'a regardé de toute façon.
Il y a que toi.
Moi je vais regarder, mais bon, pas la saison 1, oui, je sais pas pourquoi. Loki sur Disney+, pareil. Pourquoi vous n'avez pas regardé?
Parce que c'est du Marvel et que Loki c'est nul.
Marvel.
T'as regardé Miss Marvel, Stéphane?
Oui, c'est parce qu'elle était bien. Tout simplement.
Et Chair de Poule?
Eh bien, franchement, je sais.
Moi, ça me dit bien, il y a eu de très bons retours.
Moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est un peu con-con, ça massacre un peu les livres, voilà, mais ça fait pas aussi peur que. Et c'est pas aussi dérangeant que la série aurait des années 90, là.
Oui, ça faisait pas peur.
Oui, le générique faisait peur, déjà.
Ouais,
oui, quand t'avais 12 ans.
Oui, j'avais 12 ans.
Bah oui, littéralement.
Donc ça peut faire aussi peur que la série.
Non, là ça fait pas plus de 2 ans, mais là ça fait pas peur du tout. Mais c'est vraiment pas mauvais. Bon, après tu demandes ce que Justin Long il fout là-dedans, mais voilà quoi.
Bah parce qu'il a rien d'autre en fait.
Peut-être.
Mais il a
un rôle pourri quoi.
Surtout en ce moment.
Et The Crown, on attend que la saison soit finito pour en parler.
Mon mec, putain.
Mais ça va, t'as le temps. Hein.
Ouais, mais j'ai hâte.
Ouais. Bah,
de retrouver
si
ton mec
hâte,
ou de... Je sais pas. Merci Maxime, merci Stéphane,
avec
merci
plaisir.
Aki.
Merci Tom.
Et merci les séries. Et on se retrouve très bientôt pour parler séries, évidemment. À bientôt.